Alors, Radio Barque 10e, notre invité aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est Manuel Garcia, qui est écrivain, qui a écrit un certain nombre de livres, tous basés sur une expérience d'ancien gendarme. Alors, rapidement, votre bio, si je puis dire, Manuel Garcia, vous êtes d'origine espagnole, vous êtes né, je crois, en Espagne, en Catalogne même.
Tout à fait, c'est ce que je dis chaque fois quand on me pose la question, je dis que je suis le vrai catalan. D'ailleurs, j'ai ma carte d'identité catalane.
Ah, oui.
Qui est fictive.
Vous avez la double nationalité.
Non. À l'époque, on faisait une carte d'identité catalane qui est totalement fictive et que j'ai toujours. Et effectivement, là, vous le faites bien de le préciser, je suis né à Sabadell, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres de Barcelone.
De Barcelone, oui.
C'est une ville qui a environ dans les 200 000 habitants.
Et vous êtes venu en France, donc, très jeune, et dans le coin, dans Languedoc.
Je suis venu en France, donc je devais avoir 2 ans. Donc mes parents, dans un premier temps, ont habité du côté de Campagne-les-Bains. Ensuite, ils sont venus au Somail et du Somail, ils sont venus à Salers-le-Dode, d'où je suis originaire.
Voilà. Donc finalement, c'est un parcours comme il y en a eu des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers à une certaine époque. Et alors, vous avez fait carrière dans la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui vous a attiré a priori?
Disons enfin que au début je travaillais dans la vigne et je me suis dit très vite que je ne pouvais pas rester donc sans rechigner bien évidemment le métier de la vigne, mais il faut revenir à l'époque où les Espagnols on était un peu les immigrés et on avait des noms d'oiseaux qu'on nous répétait sans cesse. Tu viens manger le pain des Français, etc., etc. Combien de fois? Voilà, tout à fait. Michel a tout à fait raison de le préciser. Et moi aussi, j'ai entendu dire. Et je me suis dit, donc, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu fasses voir qu'avant tout, tu es un être humain et que tu peux toi aussi réussir. Et c'est à partir de là, donc, que je suis parti, donc, que j'ai fait une candidature. J'ai commencé par la Brigade Sport-Pompier de Paris, où j'ai fait mon service militaire, et ensuite donc, j'ai intégré la gendarmerie nationale.
Oui, mais vous aviez fait toute votre scolarité en France.
J'ai fait toute ma scolarité en France, donc, c'est-à-dire l'école de la République, et je vous rappelle qu'à l'époque, à Salers-le-Dode, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une école catholique qui était dirigée par des sœurs. Donc moi, je suis issu de l'école de la République, et ensuite donc, je suis allé au collège de Coursan, et ensuite à la Cité Technique.
Alors on va revenir, Manuel Garcia, sur votre parcours dans la gendarmerie, mais à un moment, lorsque vous prenez la retraite, il y a quelques années, il vous vient l'envie d'écrire des livres. Alors ça, c'est un autre déclic.
Tout à fait. Alors, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement au cours de mes nombreuses conférences que je fais un peu dans toute la région. Et honnêtement, comme je dis, je n'avais pas vocation à devenir écrivain. Même si, au cours de ma carrière professionnelle, en police judiciaire notamment, j'étais amené à mener des enquêtes criminelles. Et à ce moment-là, j'avais conscience que certaines enquêtes, on aurait pu en faire un livre, et même pour certaines, être porté à l'écran. Mais de là à franchir le pas à écrire un livre, c'était tout un monde.
Alors, une petite parenthèse, police judiciaire. Alors, dans vos livres, vous faites preuve souvent de pédagogie, c'est ce qui m'a semblé intéressant. On voit que vous êtes un ancien gendarme, et vous essayez de faire partager votre expérience et votre compréhension des phénomènes. Alors, la police judiciaire, ça veut dire quoi pour le commun des mortels, par rapport à la police tout court? Alors,
la police judiciaire, ce sont des services spécialisés, donc, qui sont menés et par la police nationale et par la gendarmerie. Donc là, j'ouvre rapidement une parenthèse. Le commun des mortels pense que la police judiciaire relève uniquement de la police nationale. C'est tout à fait faux. En France, on a deux polices d'État. On a la police nationale et la gendarmerie nationale, et chacune a des unités spécialisées. Pour la police nationale, ce sont les services de le SRPJ. Pour la gendarmerie, pendant des années, ça a été les brigades de recherche et d'intervention. Et plus tard, ils ont créé des sections de recherche qui ont également les mêmes compétences au niveau cour d'appel. Je vous rappelle que la cour d'appel, c'est 5 départements. Et elles ont exactement les mêmes compétences. Donc, même si ce n'est pas écrit, sur le territoire national, il y a un principe qui veut que lorsque les faits se passent en zone urbaine, c'est le SRPJ qui est saisi.
Donc la police.
Police nationale. Et lorsque les faits se passent en zone rurale, c'est les services de gendarmerie spécialisés, bien sûr, lorsque c'est une affaire criminelle, qui sont saisies. Mais, attention, ça ne dépend uniquement que du bon vouloir du magistrat instructeur. C'est eux qui
donc de la justice.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que, comme je vous rappelle, la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République.
Oui, donc l'ensemble des deux polices, en quelque sorte. Tout à fait. Et alors, cette fusion qui a quelques années, gendarmerie, police, bon, vous n'êtes plus tenu, Manuel Garcia, par un devoir de réserve, donc vous pouvez en parler et donner votre opinion. C'était une bonne chose, c'était nécessaire ou pas, d'après vous? Et notamment le rattachement au ministère de l'Intérieur, alors qu'avant, c'était le ministère de la Défense, si je ne me trompe.
Tout à fait. La gendarmerie relevait donc du ministère de la Défense, bien qu'elle avait son autonomie particulière. Elle avait un directeur national. Et à ce titre, ce qui était paradoxal, c'est que la gendarmerie, à sa tête, a toujours eu, pratiquement jusqu'à ces dernières années, soit un magistrat, soit un haut fonctionnaire. Pour une police militaire, parce que la gendarmerie est militaire, à sa tête, elle avait donc un magistrat qui dirigeait la gendarmerie. Alors que la police nationale n'avait pas de magistrat, elle avait quelqu'un qui était issu du corps préfectoral, c'est-à-dire ministère intérieur, ou d'un haut fonctionnaire de la police nationale. Et à mon avis, c'est ce qui a fait reculer pendant quelques années une certaine différence, et ce que je dis, ça n'engage que moi, bien évidemment, le fait qu'à la tête de la gendarmerie, il y ait un magistrat ou un autre fonctionnaire qui était placé par le bon vouloir du pouvoir en place. Donc, c'est pour cela qu'il y avait certaines décisions qui étaient plus ou moins paradoxales. Je vous donne un exemple.
Des décisions politiques, vous voulez dire.
Bien sûr, bien sûr. Je vous donne un exemple. Actuellement, je crois, si ma mémoire ne me fait pas la défaut, et pardonnez-moi à quelques centaines près, je crois que les effectifs de la gendarmerie sont d'environ de 100 000 personnes, alors que ceux de la police nationale doivent avoisiner les 150 000 personnes. Mmh. Et je pense finalement que c'est une bonne chose qu'il y ait un regroupement avec une force unique qui est au niveau du ministère de l'Intérieur, tout en sachant que quand même la gendarmerie nationale garde son statut de militaire, ce qui peut paraître paradoxal. Mais vous me direz qu'au niveau espagnol, c'est exactement le même système. Vous avez la Guardia Civile, qui est une police militaire, et la police nationale, qui est une police civile et qui n'est pas du même ministère. Alors la seule différence qu'il y a entre la gendarmerie et la police, qui est très importante pour les éditeurs, c'est que la police nationale n'a pas vocation, étant donné que c'est une police civile, à intervenir à l'extérieur.
Tandis que... À l'extérieur du territoire.
À l'extérieur du territoire. En conflit, je parle, lorsqu'il y a un conflit. Tandis que la gendarmerie intervient, dont moi-même, à l'époque, je suis intervenu, dans des conflits, dont à l'extérieur du territoire national, parce que c'est une force militaire.
Oui, on va y revenir là-dessus. Mais alors, on a aussi parlé, parfois, de temps en temps, les médias en tout cas en parlaient, de la guerre des polices, paraît-il, la police et la gendarmerie se tiraient la bourre, si vous me permettez cette expression. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, dans votre carrière?
Oui, bien sûr que j'ai vécu. Mais disons enfin que, pour être honnête, c'était surtout au niveau des grands chefs.
Qui avait les états-majors.
Voilà, qui avait une guerre de résultats, parce que autant gendarmerie que police nationale, les grands chefs sont notés en vertu des résultats qu'ont leurs unités. Et donc, il y avait donc une guerre à celui
une
qui.
Concurrence, fera, alors.
Concurrence atroce qui, de nos jours, a disparu.
Et alors, vous disiez, Manuel Garcia, étant de naissance espagnole, forcément, vous connaissez le problème, que c'est une situation identique en Espagne. Et vous disiez aussi que, là, en tant que gendarme, vous étiez habilité à intervenir à l'étranger. Je crois que ça a été votre cas. Vous êtes intervenu dans vos missions en Espagne.
Non, en Espagne, je suis intervenu sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, c'est-à-dire sur une commission rogatoire internationale dans le cadre donc d'une affaire criminelle.
Oui, c'est ça. Dans le cadre de vos responsabilités police judiciaire.
Voilà, tout à fait. Mais sans vous dévoiler toute ma carrière, puisque certaines relèvent encore du secret de la défense. J'ai été missionné donc pour faire des missions au niveau des Nations Unies, notamment en Haïti.
Mais là, c'était pour de la formation.
C'était, C'était le...
C'était quoi exactement? Vous n'alliez pas empêcher les tremblements de terre en Haïti, Emmanuel Garcia?
Pas du tout. Pas du tout. Donc, on était parti donc en Haïti. Là, il y avait eu un mélange de forces, des forces d'intervention. Et exactement, nous étions 30. Donc, moitié police nationale, moitié gendarmerie. Et nous étions allés. C'était l'époque où le général Cedras avait pris le pouvoir lorsque le président Aristide était parti à un voyage officiel aux États-Unis. Il y a eu un coup d'État. Et on avait été envoyé dans les 48 heures par le gouvernement, donc dans un but de protéger l'ambassade et les ressortissants français. Ensuite, on a été détaché au niveau des Nations Unies pour reformer la police nationale haïtienne, etc.
C'était en quelle année, ça?
C'était dans les années 93 et 95.
Et alors, votre témoignage, puisque vous en parlez sur cette île qui revient de temps en temps dans l'actualité, pour tout un tas de raisons, et pas seulement pour ces tremblements de terre, quel est votre souvenir de ce pays, de, paraît-il, la première colonie française qui est devenue indépendante à l'époque napoléonienne?
Tout à fait. Et je peux vous assurer qu'ils en sont très fiers. Ils sont très fiers d'être le premier pays qui a été indépendant. Mais, à contrario, il faut voir l'état du pays.
Voilà, c'est ça.
C'est totalement désastreux. Et donc, moi, maintenant, ça fait plus de 25 ans que je suis intervenu là-bas. Et j'ai toujours dit que ce pays devait être rattaché à un autre pays, soit aux États-Unis ou pourquoi pas la France. Parce que ce pays ne s'en sortira jamais dans des guerres civiles internes, des luttes de pouvoir. Ce pays, à mon avis, ne s'en sortira pas.
Mmh. Oui. Donc vous pensez que son destin solitaire, lui, est préjudiciable, finalement.
Absolument.
Aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est intéressant à entendre comme témoignage. Alors revenons maintenant sur la plume. Puisque, à un moment, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Manuel Garcia, vous avez envie d'écrire. Ça a commencé, je crois, avec l'affaire Foulché.
Voilà, tout à fait.
Alors, rappelons cette affaire dont beaucoup de Narbonnais doivent se souvenir parce qu'elle fut très douloureuse à Narbonne.
Oui. D'ailleurs, quand on évoque l'affaire Foulché, quand vous allez, en fait, sur les sites criminels nationaux, c'est un des faits les plus importants de notre histoire criminelle en France. Je vous rappelle que quand on évoque le nom d'Albert Foulché, à lui seul, il y a 6 morts.
6 morts, dont 2 policiers narbonnais.
Il y a 2 policiers narbonnais, il y a le mari de son ancienne maîtresse, il y a exactement un assureur qui était connu sur la place à cette époque-là. Il y a également 2 personnes du côté du Biterrois, donc ça fait énormément de morts. Et donc, j'ai été amené à m'occuper de cette affaire dans la première partie, dans les années 90, quand il avait donc assassiné un assureur. D'ailleurs, chose qui est paradoxale, Albert Foulché, comme vous le savez, s'est suicidé lors de l'intervention du RAID, à Béziers. Il aura été...
Alors, le RAID, c'est la police, je crois.
Le RAID, c'est la police nationale, donc... Alors, pour faire un peu d'histoire, alors encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis ni le porte-parole de la gendarmerie, et encore moins de la police nationale, hein, que, soyez bien d'accord. Mais le RAID a été mis en place à l'époque par le ministre de l'Intérieur, qui était Pierre Joxe, dans les années 84. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, et ce qui est un bien, c'est qu'il a été formé à Satory par le GIGN.
Oui, qui existait auparavant.
Voilà, le GIGN, donc, comme vous le savez...
Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Voilà, est issu de l'attentat qui s'était passé à Munich en 1972,
aux Jeux Olympiques.
Voilà, où les athlètes israéliens avaient été abattus. Et c'est à partir de là que l'État a commencé donc à former
des spécialistes pour ces interventions.
À l'intervention, tout à fait.
Donc là, c'était le RAID. Pour quelle raison? Parce que c'était en ville?
C'était le RAID parce que, comme je disais tout à l'heure en début de mon intervention, Béziers, c'est une
zone police.
C'est une zone police. Donc c'est le RAID qui est intervenu.
Oui, d'accord. Et alors donc, enchaîner sur cette volonté, un moment d'écrire et d'expliquer, de tenter d'expliquer.
Alors, comme je le dis tout le temps... dans notre existence, je suis persuadé que nous avons tous, à un moment donné, la chance qui passe à proximité. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est dans les années 2007 ou 2008, lorsque les journalistes de France 2 sont venus dans la région, notamment ceux de l'émission Fait entrer l'accusé avec à leur tête Christophe Ondelatte. Donc c'est Christophe Ondelatte qui m'a dit, avec qui j'avais lié une certaine amitié, et que j'ai toujours d'ailleurs, Il m'avait dit, tu devrais écrire ce livre parce que tu es un des ceux. Alors quand je dis je, bien évidemment, je ne suis pas seul. On a une équipe. On a une équipe qui travaille sur une affaire criminelle.
Mais enfin, vous l'avez vécu de A à Z.
Moi, j'ai vécu de A à Z. Et d'ailleurs, je suis, avec mon équipe, bien entendu, je suis le seul qui ait eu Albert Fouché en garde à vue pendant 48 heures. Je suis le seul, puisque même sur la tuerie de Narbonne, il n'a jamais été interpellé. Donc je suis le seul, avec mon équipe, à avoir eu Albert Fouché face à moi.
Pendant... Oui, ce que vous décrivez dans le livre,
voilà, tout à fait. Et pour en revenir à l'écriture, donc c'est Christophe Audelatte qui m'a dit « Tu devrais l'écrire parce qu'un jour, des journalistes essaieront d'écrire ce livre et peut-être qu'ils ne reflèteront pas la réalité comme toi, tu l'as connue de l'intérieur. » Et c'est ce qui m'a fait donc écrire ce livre qui a connu un énorme succès. Et je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu. Et j'en ai donc écrit un autre qui s'intitule, comme vous l'avez dit tout à l'heure, « Les amants du canal du Midi », qui est également issu d'une affaire criminelle qui s'est passée.
Oui, alors justement, celui-ci, revenons maintenant sur des choses très concrètes, marchandes, si je puis dire. Il est édité à la maison TDO.
Oui, alors...
Et apparemment, il tourne bien, ce livre, il se vend bien.
Alors, c'est... Alors, pour vous dire, enfin, l'anecdote... Quand j'ai fait ce manuscrit, je l'avais envoyé donc aux éditions Cherche Midi à Paris, et en même temps, je l'avais envoyé à TDO. Donc TDO m'a répondu environ dans les 3 semaines, alors que normalement il faut 3 mois, en me disant que c'était OK, donc on va vous l'éditer. Et peut-être 3 mois après, j'ai eu la réponse des éditions Cherche Midi qui voulaient me l'éditer également.
Non, mais c'était trop tard.
Et je leur ai dit c'était trop tard. Donc, voilà un peu, c'est pour l'anecdote. Donc je suis donc chez l'éditeur, les éditions TDO qui sont à Poyestre, à côté de Carcassonne.
De Perpignan.
Excusez-moi.
Dans les
Perpignan, oui. Et donc, qui ont une résonance. Bon, ce sont des régions où ils produisent donc des livres de la région, et ils sont très connus, puisque je vous dis, ils ont fait une ligne, ils partent de Bretagne jusqu'à Nice. Ils font tout le sud de la France, j'y suis bien.
Oui, voilà. Alors là, c'est justement, puisque Noël approche, c'est une occasion pour les gens qui ont envie de lire un livre situé dans notre région, de lire Les Amants du Canal du Midi, que l'on trouve où commercialement.
Les Amants du Canal du Midi.
Dans les librairies. Les bonnes librairies, comme
oui,
on dit.
Voilà. Dans les bonnes librairies, il est culturel, il est un peu partout.
Et alors, je reviens alors sur la genèse de ce livre-là, qui est tout à fait différent de l'affaire Fouché, puisque là, c'est à la fois du vécu, mais de la fiction. Vous mélangez les deux. L'affaire Fouché, c'est un témoignage.
Tout à fait. Dans Les Amants du Canal du Midi, le fond de l'affaire est exact, comme je dis lors de mes conférences. Mais je le romance à 15%.
Avez mesuré le taux de...
Oui. Je le romance à 15% pour la simple et bonne raison que je change l'époque. Bien entendu, je change les noms et je change les lieux. Mais lorsque j'écris un livre, et notamment Le Canal du Midi, je fais en sorte de mettre en avant la ville ou le village où je situe l'action. Savez-vous qu'à Mirepoisset, puisque ça se passe dans le village minervois de Mirepoisset, il y a un pont qui a 7 arches. C'est peut-être l'unique pont qui, en France, avait 7 arches. Et ce pont, je vous assure, est un pont en pierre qui relie Mirepoisset à la zone industrielle qui va sur Salelle.
De Truyas.
Voilà, de Truyas. Et c'est un pont qui mériterait d'être répertorié au monument historique. Donc, je le décris. Je décris également les bâtiments qu'il y a dans ces communes pour faire voir au public que dans ces petites communes, comme dans les grandes villes, il y a des choses culturelles à voir. Et pour moi, donc, c'est un plaisir lorsque les gens vont dans ces villages ou dans ces communes voir ce que j'écris. Et également, je fais en sorte de faire entrer le lecteur dans la peau de l'enquêteur.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant, il y a ce côté pédagogique.
Tout à fait.
C'est pour ça que je vous posais quelques questions sur le fonctionnement. Et on apprend, effectivement, en lisant ce livre, comment les choses fonctionnent, une enquête.
Voilà, tout à fait. Parce que la plupart des gens pensent que lorsque vous avez une personne en garde à vue, l'enquêteur, quel qu'il soit, immédiatement... Bon, à mon époque, c'était la machine à écrire, l'ordinateur commençait à arriver... les gens pensent qu'immédiatement, vous posez des questions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un travail de technique qui est mis en avant. C'est-à-dire, avant de l'interroger sur le fin fond de l'affaire, on essaie... Alors, bien sûr, maintenant, lorsque vous avez quelqu'un en garde à vue, il faut lui notifier les droits. Bon, une fois que cette mesure est faite, il y a donc une discussion qui se passe entre l'enquêteur et la personne que vous avez devant vous. C'est une question de confiance qui s'installe entre les deux. Mais c'est une question de discussion qui peut durer une heure, deux heures, trois heures. Mais le but, c'est dans un but bien précis. C'est dans le but de pouvoir, jauger le point faible de la personne que vous avez en face.
Oui, trouver la faille.
Voilà. Et lorsque vous avez découvert son point faible... Je pense que vous êtes sur
la vous entrez dans le vif du sujet. Eh bien, à lire de, peut-être pour ces fêtes de Noël, Les Amants du Canal du Midi par Manuel Garcia. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur tout ce que vous avez fait, cette carrière, et maintenant votre nouvelle vie d'écrivain. Vous en avez un qui est au feu, j'imagine, qui est sur le feu, qui se prépare.
J'en ai un donc qui est terminé, qui est justement aux éditions TDO, qui je vais donner dans la primeur aux auditeurs de Grand Sud FM, qui s'intitule Camargue Rouge.
Camargue Rouge, voilà. Sortie prochaine, on ne sait pas encore. Mais
dans quelques mois.
On y reviendra. Merci en tout cas, Manuel Garcia, d'être venu à ce Radio Barque pour témoigner. La prochaine invitée, et on clôturera d'ailleurs la saison avec, ça sera Sébastien Plat. Michel, tu vas pouvoir nous reparler de tourisme avec lui, puisqu'il est directement concerné et par un certain nombre de billets que tu avais fait.
Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai appris qu'il avait rencontré Henri de Lemley sur le musée Tautavel.
J'ai déjà des questions toutes prêtes là-dessus, sur le musée de Tautavel.
Et moi aussi.
Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.